Bonjour à tous et à toutes, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maëlys, bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui que les députés européens doivent boucler le puzzle, sinon le casse-tête des nominations au poste clé de l'UE au lendemain de l'accord au forceps conclu par les dirigeants des 28 États membres. Les eurodéputés ont eux commencé à voter ce matin pour élire un nouveau président au Parlement. Une quarantaine de migrants ont été tués dans un raid aérien nocturne contre leur centre de détention près de Tripoli, une frappe attribuée aux forces du maréchal Haftar engagées dans une offensive sur la capitale libyenne. Enfin, Total a annoncé ce matin le démarrage de sa nouvelle bioraffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône, en dépit d'une vive contestation des défenseurs de l'environnement. Et puis à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table d'été.
Et oui, nous allons parler du Tour de France en première partie, avec le documentaire de Meryl Fortuna Rossi et de Valérie Rosier. Et ensuite, bien sûr, la bande dessinée aussi de Max Cabane. Et en deuxième partie, nous recevrons l'artiste Pierrick Saurin, invité du Voyage à Nantes.
Merci et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Ils sont donc enfin tombés d'accord, ou à tout le moins, puisqu'ils y étaient contraints et forcés, les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont-ils fini par annoncer hier le casting des nouveaux hauts responsables appelés à diriger l'Union. Deux femmes, tout d'abord, accèdent aux plus hautes fonctions après 60 années d'hégémonie masculine, quand l'actuelle ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, est proposée pour prendre la tête de la Commission. La française Christine Lagarde, elle prendra les commandes de la BCE après 8 années passées à diriger le FMI. De son côté, l'actuel Premier ministre belge, Charles Michel, hérite lui de la présidence du Conseil européen, tandis que le poste de haut représentant pour les affaires étrangères est confié au ministre socialiste espagnol Josep Borrell. Alors, au-delà des noms et des visages donc apposés sur le nouveau trombinoscope des fameux top jobs, que faut-il à présent retenir de ce casting? Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Plusieurs conclusions peuvent d'ores et déjà être tirées de ce mercato. Tout d'abord, cette sélection surprenante et même improbable, il y a quelques jours encore, confirme au fond et plus que jamais l'état de désunion des 28. Ensuite, elle acte la mort au moins temporaire du système dit du Spitzenkandidat, selon lequel le choix des nominations devait se faire parmi les chefs de file des partis arrivés en tête du Parlement. Et puis, la moralité de toute cette histoire, Angélique, eh bien, c'est la confirmation, une fois de plus, que sans un accord entre la France et l'Allemagne, confère le ticket Lagarde von der Leyen, l'UE menace décidément toujours d'imploser.
Oui, un couple franco-allemand que l'on disait pourtant en panne hein, pour faire avancer l'Europe, mais qui a su retourner la situation à son avantage après 48 heures de cafouillage. C'est Emmanuel Macron qui aurait eu l'idée de la ministre allemande de la Défense pour dénouer cet improbable mercato en échange de la BCE. Le président français qui s'en sort donc plutôt bien en écartant la candidature du chef de file de la droite européenne, Manfred Weber, pour la tête de la Commission, homme jugé trop à droite et inexpérimenté. Il a en effet tué en quelque sorte ce système, vous l'avez dit, du Spitzen candidate auquel il est farouchement opposé. Ursula von der Leyen est certes conservatrice, hein, mais c'est une modérée. Et puis, elle s'est par ailleurs montrée active dans le rapprochement franco-allemand en matière de défense. C'est une pro-européenne née en Belgique et fille d'un fonctionnaire européen. C'est donc réjoui hier le président français. C'est aussi une femme, plusieurs fois ministre, quasi inconnue à Bruxelles, et dans les institutions. En tout cas, expérience, parité et renouvellement étaient en tête de ses exigences. Dans ce mercato, il place également une française, Christine Lagarde, à la Banque Centrale Européenne, et un très proche, le Belge Charles Michel, au Conseil Européen. Enfin, les quatre personnalités choisies sont toutes francophones. Ce n'est pas négligeable. Voilà donc un retournement de situation pour Emmanuel Macron, qui fera sans doute oublier l'atterrissage raté de son groupe, la Renaissance, au Parlement. La victoire est moins nette pour Angela Merkel, mais qui a tout de même froissé ses partenaires de coalition, les sociodémocrates. Et ils ont vu la Commission leur passer sous le nez. Mais elle y place une fidèle parmi les fidèles. Et l'Allemagne n'avait plus occupé ce poste stratégique depuis 52 ans. Enfin, la chancelière sauve la face hein, vis-à-vis de sa famille politique européenne, le PPE, qui avait vivement, très vivement contesté son pré-accord conclu en marge du sommet du G20.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Alors on l'a dit, ce casting aura au moins le mérite d'avoir mis fin à 36 heures de chicanerie. Reste qu'après les fractures constatées ces derniers jours, eh bien, il semble que Bruxelles ne soit pas encore totalement débarrassée de ses blessures. Car la bataille pour représenter l'Union européenne est en réalité pas encore tout à fait terminée. Plusieurs étapes majeures restent à valider et la première d'entre elles aura d'ailleurs lieu dès aujourd'hui avec le vote des eurodéputés réunis à Strasbourg pour désigner le futur président du Parlement. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Strasbourg. Alors, quatre candidats sont en lice, dont deux visiblement tiendraient la corde. Le social-démocrate italien David Sassoli et la députée écologiste allemande Ska Keller. Un premier vote a eu lieu ce matin, sauf que pour être élu, Rosalie, le nouveau ou la nouvelle présidente devra obtenir une majorité absolue. Ce qui s'annonce a priori compliqué compte tenu du morcellement du paysage politique européen issu des dernières élections.
Oui, et il y en a un qui y est presque, l'Italien Sassoli, présenté par les sociaux-démocrates et soutenu par le PPE, le groupe le plus large de l'hémicycle européen, s'offre 325 voix au premier tour.
Sassoli, 325 voix.
Il en fallait 332 pour être élu directement, un deuxième tour s'impose donc. Mais le suspense est tout à fait relatif, souligne l'eurodéputé Rassemblement National Thierry Mariani.
C'est chronique d'un film annoncé, vous savez, pendant la campagne électorale, je disais sur les différents plateaux, que vous votiez Glucksmann, Bellamy ou que vous votiez l'oiseau, tous ces gens-là finiront par s'allier. Et finalement, je me dis aujourd'hui que ceux qui ont voté pour Madame Loiseau ou ceux qui ont voté pour Monsieur Bellamy, c'est un peu les cocus du jour, quoi. Ils vont en retrouver un président socialiste élu avec leurs propres députés. Bienvenue dans le Nouveau Monde.
Le Nouveau Monde, pas encore officiel, puisque les eurodéputés votent de nouveau, mais Sassoli a d'ores et déjà bien creusé l'écart avec le deuxième qui n'est pas l'écologiste allemande. Ska Keller et ses 133 votes se classent derrière Jan Zahradil, le conservateur tchèque. 162 voix pour lui, et ça, c'est un peu plus surprenant.
Et puis le suspense reste également entier, Rosalie, s'agissant cette fois-ci de la ministre allemande von der Leyen, proposée pour prendre la tête de la Commission. Pourquoi ? Parce que sa nomination reste en réalité conditionnée au vote à la majorité absolue des 751 eurodéputés, ce qui, là encore, est loin d'être gagné d'avance.
Non, pas gagné d'avance, même si on dit ici à Strasbourg que l'élection de Sassoli à la tête du Parlement européen devrait faciliter l'approbation de la ministre allemande à la Commission. Mais c'est vrai, ce choix est loin de faire l'unanimité au sein des eurodéputés. L'insoumis Emmanuel Morel, par exemple, se désole de l'accord des dirigeants trouvé à Bruxelles.
Ce qui me navre, c'est l'absence totale d'originalité. On a l'impression que rien ne change et que dorénavant, c'est comme avant. Or, cette inlassable recommencement du même, ça risque d'écœurer une partie de nos concitoyens, en tout cas de les éloigner de l'idée européenne. Et ça, c'est vraiment dommage.
Les jeux ne sont pas encore faits pour Ursula von der Leyen, mais elle va tenter de convaincre dans les rangs des eurodéputés. Elle pourrait d'ailleurs faire une première visite ici au Parlement de Strasbourg cet après-midi.
Merci Rosalie Lafarge, envoyée spéciale à Strasbourg. Le soulagement pour Carola Rackete hier soir au grand dam du ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini. Une juge italienne a invalidé l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch, arrêtée samedi dernier pour avoir accosté de force à Lampedusa pour faire débarquer 40 migrants. La jeune Allemande de 31 ans qui risquait jusqu'à 10 ans de prison est donc désormais libre de ses mouvements, du moins légalement parlant, car à la suite de menaces, elle a tout de même été conduite en lieu sûr. Et puis, comme c'est souvent le cas désormais lorsqu'un navire d'ONG débarque ainsi des migrants en Italie, elle fait toujours l'objet d'une enquête pour aide à l'immigration clandestine, un dossier traité à part et pour lequel elle sera convoquée par le parquet le 9 juillet prochain. Près de 40 migrants tués et au moins 70 autres blessés. C'est le dernier bilan d'une attaque aérienne perpétrée hier contre un centre de détention dans la banlieue de Tripoli. Un bilan qui menace encore de s'aggraver dans les prochaines heures. Cette frappe a d'ores et déjà suscité de vives condamnations à l'international. Reste à savoir comment et surtout par qui ce raid aérien a-t-il été mené? Était-il prémédité? Et visait-il précisément ce centre de migrants? Les derniers éléments semblent attribuer cette attaque aux forces du maréchal Haftar, lesquelles tentent, je vous le rappelle, depuis 3 mois maintenant de s'emparer de la capitale libyenne. Les précisions de Christian Chénon.
Est-ce une bavure ou un acte délibéré? En tout cas, le gouvernement d'Union nationale, le GNA de Fayez Sarraj, a condamné cette frappe qu'il a imputée au criminel de guerre Khalifa Haftar selon un communiqué. Le maréchal Haftar, qui tente de prendre Tripoli, a nié que ses troupes aient pu viser le centre de détention de migrants de Tajdoura. Ce centre, qui accueille 600 personnes selon le HCR, se situe à côté de plusieurs casernes où sont stationnées des forces alliées au GNA qui sont la cible de frappes aériennes depuis plusieurs semaines. Bref, les migrants tués dans le bombardement apparaissent comme les victimes collatérales de la guerre civile libyenne, pris entre deux feux d'un conflit qui les dépasse. Depuis avril dernier, les troupes du maréchal Haftar ont lancé une grande offensive pour reprendre le contrôle de Tripoli. Après des succès initiaux, leur avance piétine. Pire, elles ont subi un revers fin juin. Lors d'une attaque surprise, les forces loyales au GNA de Fayez Sarraj se sont emparées de la ville de Rayan, située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tripoli et qui était l'une des principales bases arrières de l'armée du maréchal Haftar. Ce bombardement de migrants va-t-il entraîner une pause dans les combats? Le maréchal Haftar répète que son objectif reste de prendre Tripoli pour réunifier la Libye sous son contrôle.
C'est un véritable charnier avec environ 200 corps, dont ceux de personnes apparemment exécutées, qui a été découvert près de Raqqa, l'ancienne capitale du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. C'est en tous les cas ce qu'ont annoncé ce matin les autorités locales ainsi qu'une ONG. 5 corps habillés d'une combinaison orange tenue parfois portée par les otages de Daesh ont également été retrouvés. Contesté par les députés dans son parti comme dans la rue, le président de la Chambre basse algérienne a démissionné hier dans un contexte de crise institutionnelle qui se profile chaque jour un peu plus en Algérie avec l'expiration du délai d'intérim sans nouveau président élu. C'est une première en France et c'est aussi peut-être un tournant important dans la lutte contre l'impunité des multinationales. On l'a appris ce matin, Samsung Electronics France, filiale du géant sud-coréen, a été mise en examen en avril dernier pour pratiques commerciales trompeuses dans une enquête sur de possibles violations des droits de l'homme dans les usines du groupe, notamment en Chine. Florence Turm, bonjour.
Bonjour.
Deux associations, Sherpa et ActionAid, étaient à l'origine de cette plainte sur les conditions de travail des ouvriers des usines Samsung en Asie. Samsung, qui avec ses 219 milliards de dollars de chiffre d'affaires, proclame pourtant son ambition de devenir l'une des entreprises les plus éthiques au monde.
Oui, et pour les ONG, Sherpa et ActionAid, c'est une étape majeure dans la bataille judiciaire initiée en 2013, qui s'était soldée à deux reprises par un classement sans suite. Mais la plainte avec constitution de partie civile déposée l'an passé vient d'aboutir à cette mise en examen. Les deux organisations ont réuni des éléments qui montreraient des conditions de travail indignes dans les usines Samsung en Chine, au Vietnam et en Corée, avec des enfants de moins de 16 ans au travail, payés 70% de moins que les adultes, hébergés dans une extrême promiscuité et parfois sans accès à l'eau. Sans compter la manipulation des produits toxiques comme le méthanol et le benzène, qui seraient à l'origine de maladies incurables et déjà de nombreux décès parmi les ouvriers. Cela dit, la loi française adoptée en 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales ne peut viser que les entreprises de plus de 5000 salariés. Ce n'est pas le cas de Samsung France. Les ONG ont en quelque sorte contourné la difficulté et le vide juridique en s'appuyant sur la communication de Samsung, notamment la charte éthique développée sur son site internet qui promet de respecter les droits fondamentaux. Le juge d'instruction saisi a suivi leur argumentaire en prononçant cette mise en examen pour pratique commerciale trompeuse, autrement dit une distorsion entre le discours officiel délivré aux consommateurs et les pratiques constatées sur le terrain qui ouvrent désormais la voie à un possible procès.
Merci Florence Sturm. Autre géant industriel au slogan, là aussi pour le moins ambitieux, Total, engagé pour une énergie meilleure, a vu sa raffinerie de biocarburant de La Mède près de Marseille démarrer sa production cette semaine au grand dam des associations de défense de l'environnement qui s'inquiètent de conséquences sanitaires potentielles pour les citoyens. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors avec près d'un an de retard, le site a donc démarré sa production dans la nuit de lundi à mardi, non sans avoir dû remédier à de nombreux problèmes techniques, mais surtout, depuis le tout début du projet, c'était en 2015, eh bien la MED s'est attiré les critiques des associations écologistes qui s'inquiètent de la consommation prévue d'huile de palme, dont la production est régulièrement dénoncée pour les ravages, notamment la déforestation qu'elle occasionne dans les pays producteurs.
Oui, le site Total des Bouches-du-Rhône est pourtant censé commencer une nouvelle vie, plus durable, après avoir arrêté de raffiner des carburants fossiles. Sa plateforme comprend désormais, outre la bioraffinerie, une ferme solaire et une unité de production d'additifs permettant de réduire les émissions polluantes des poids lourds, soit 250 emplois directs sur un site qui en comptait avant sa fermeture 430. Mais même en raffinant des huiles végétales et des graisses usagées, l'activité de la MED reste très critiquée, vous l'avez dit, d'abord parce qu'en prévoyant de raffiner 300 000 tonnes d'huile de palme par an au maximum, Total va faire bondir les importations de cette matière première qui cause, selon les ONG, des ravages écologiques. 20 000 tonnes sont déjà arrivées d'Indonésie vers l'étang de Berre en mars dernier. Une huile de palme certifiée durable selon les critères européens, une durabilité largement remise en cause par les ONG. Par ailleurs, la viabilité économique de cette activité est aussi questionnée. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne a décidé dans un texte réglementaire récent de placer l'huile de palme dans la liste des biocarburants non durable à cause de ses effets sur la déforestation. La France a renchéri via un amendement qui annule la fiscalité avantageuse dont l'huile de palme bénéficiait jusqu'à présent. Il devient donc nettement moins bon marché d'en raffiner. Total ne désespère pas de faire supprimer cet amendement lors de la prochaine loi de finances. Un intense lobbying s'est déjà mis en place. Total fait enfin valoir qu'à terme, 60% de ce qui sera raffiné à la MED proviendra d'autres huiles que celles de palme, notamment l'huile de colza produite par les agriculteurs français. Là encore, l'intérêt écologique de ce type de production est remis en cause pour sa consommation de sols agricoles notamment.
Merci Anne-Laure Choin. Depuis ce matin, une perquisition est en cours au siège de Renault à Boulogne-Billancourt. Perquisition liée à l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nanterre à propos du financement du fastueux mariage de son ex-patron Carlos Ghosn, organisé au château de Versailles en 2016 en contrepartie d'une convention de mécénat signée entre l'établissement public et la marque aux losanges. On termine avec un mot de météo. Le soleil s'imposera cet après-midi au nord de la Loire. Ciel plus contrasté en revanche sur le reste du pays. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 37 degrés, c'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.